Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Éliminer la transmission du VIH mère-enfant, un objectif pour l'OMS, pour l'ONU-SIDA, pour toutes les personnes concernées par la lutte contre la pandémie. Et la fin de ce cruel héritage, c'est aujourd'hui une réalité dans près de 90 pays de la planète, comme récemment la Thaïlande, Cuba ou encore l'Arménie. La transmission mère-enfant diminue de façon sensible dans certains États du continent, notamment en Afrique de l'Est. Au Rwanda, par exemple, les autorités prévoient qu'en 2018, plus aucun enfant ne devrait naître séropositif. Comment en est-on arrivé là? La réponse tient en quatre initiales, PTME, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Cette stratégie pour s'assurer que la mère vivant avec le virus ne le transmette pas à son bébé, ni au cours de la grossesse, ni pendant l'accouchement, et pas plus si la mère allaite son bébé. Alors ce programme s'articule autour des soins de prévention, l'information, le dépistage, et en cas de test positif, d'accès aux soins antirétroviraux. Une mise sous traitement complétée par un suivi des femmes et de leurs familles, prévenir cette transmission mère-enfant par la prise en charge systématique des mères séropositives. C'est un objectif clé, un chiffre pour s'en convaincre. D'après l'UNICEF, depuis l'an 2000, les médicaments antirétroviraux ont permis d'éviter plus d'1,5 million de nouvelles infections chez les enfants. Prise en charge mère-enfant, briser les tabous pour mieux protéger le bébé à naître. Une émission enregistrée à l'occasion de la 19e édition d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Une émission produite avec le concours du fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile.
RFI.
Nous nous trouvons sur le site de cette conférence ICASA d'Abidjan, en compagnie du professeur Thérèse Driomand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre de la Santé ici en Côte d'Ivoire, ambassadeur au Congo-Brazzaville, coordinatrice sud du programme de recherche PAXI qui travaille justement sur la recherche sur le sida et les hépatites. Également avec nous, professeur Madeleine Folquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur titulaire de pédiatrie à l'université Félix Houphouët-Boigny. En notre compagnie également, Jeanne Gapilla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et vous présidez l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, principale association de lutte contre le sida au Burundi. Et l'association AIDS est partenaire de votre propre association. Également avec nous, docteur Bintou Dembélé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, directrice d'Arcat Sida au Mali. Alors, professeur Madeleine Folquet, vous qui êtes aussi chef de service au service pédiatrie du CHU de Cocody Abidjan, comment convaincre aujourd'hui un maximum de femmes qui ont envie d'avoir un enfant, qu'il est possible de donner naissance à un bébé en bonne santé, même lorsqu'on est porteur du VIH?
C'est vraiment la sensibilisation. Il faut, dans un premier temps, je pense, pouvoir démystifier l'infection à VIH pédiatrique. Il faut aller vers la communauté, leur expliquer. Il faut amener ces femmes à venir en consultation prénatale et là, elles pourront faire leurs tests et puis prendre les antirétroviraux. Donc, on a des enfants que nous suivons qui sont nés de mères séropositives, mais qui sont séronégatives parce que la maman a bien pris son traitement, il y a eu toutes les mesures pour leur permettre de ne pas être infectée. Donc ça, c'est possible.
Et à l'inverse, professeur Madeleine Folquet, lorsque la future maman n'est pas traitée, n'est pas sous traitement antirétroviral, le risque de transmission là est multiple. Ça veut dire que si on ne se soigne pas, c'est un gros risque que l'on fait courir à son bébé. C'est pour ça qu'il faut non seulement se faire dépister, mais une fois qu'on est dépisté, prendre le traitement régulièrement, chaque jour, sans jamais l'oublier.
En effet, si on ne se soigne pas, si on ne se sait pas séropositif, et en fonction du stade où on s'est contaminé, en fonction de la grossesse, le risque pour l'enfant est de 15, voire 45% d'être contaminé par transmission mère-enfant. Et cette contamination se fait pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Mais lorsque les mesures sont prises et que la femme est dépistée, qu'elle est mise sous traitement, que le traitement se fait vraiment avec les nouvelles molécules que nous avons, avec toutes les mesures, il est possible de réduire cette transmission à moins de 5%, voire même à moins de 1%. Mais il faut vraiment que ces femmes viennent en consultation prénatale.
Alors
justement, et la mise sous traitement.
Justement, nous sommes rendus lundi au centre de soins de Gonzagueville à Port-Boué, juste à côté d'Abidjan. Sur place, des dizaines de femmes attentes, enceintes, des nourrissons dans les bras, des petits-enfants qui courent un petit peu partout. Et parmi les nombreux services dédiés à la santé maternelle et infantile, il y a le service, justement, ce service de consultation prénatale qui est tellement important pour les futures mamans. Et Christine Doumbia est sage-femme sur place.
C'est un hôpital, donc normalement lorsqu'elles sont enceintes, elles se disent qu'il faudrait qu'elles viennent à l'hôpital pour voir d'abord si c'est vraiment une grossesse. Lorsqu'elles viennent par exemple au premier trimestre, elles vont d'abord faire un test de grossesse. Si la grossesse est confirmée, on leur donne le premier rendez-vous qui est à 3 mois. Et lorsqu'elles viennent, on leur donne le bilan prénatal à faire et l'échographie aussi.
Dans ce bilan prénatal, est-ce que le dépistage du VIH est inclus ou c'est quelque chose qui est proposé à côté?
Le dépistage VIH est proposé à côté, ce n'est pas inclus dans le bilan. Lorsqu'elles viennent matin, c'est ce que nous sommes en train de faire. Elles font d'abord le dépistage avant qu'on ne commence la consultation. C'est proposé systématiquement à toutes les femmes enceintes. Parce qu'avant même qu'on ne commence, on leur explique. On leur dit, on fait la CCC, le conseil, et on leur explique pourquoi est-ce qu'elle doit faire le dépistage, pourquoi est-ce que le dépistage est important pour elle et le bébé, pour le suivi de l'enfant, pour le suivi aussi un jour de la grossesse. Et dès qu'elles arrivent, quand on leur fait la proposition, elles acceptent. Toutes nos femmes acceptent de faire le dépistage. C'est rare que nous trouvions des femmes qui refusent de faire le dépistage. On leur dit pourquoi il faut faire, on leur montre le bienfait du dépistage. Ce qui fait que dès qu'elles arrivent, elles acceptent de faire le dépistage.
Il y a des mamans qui arrivent ici aussi, qui connaissent leur statut, c'est-à-dire par exemple elles sont séropositives, et elles vont venir prendre le traitement préventif pour le bébé.
Oui, elles viennent prendre le traitement préventif. Celles qui connaissent déjà leur statut, on les reçoit, elles, on leur donne leur traitement et on donne aussi le traitement préventif du bébé.
Ça veut dire que ces mamans ont fait ce bébé en étant enceintes parce qu'elles avaient une charge virale très basse et qu'elles étaient en confiance, ou il y en a qui arrivent et qui sont quand même dans un état assez difficile. Ces mamans, elles sont déjà sous traitement antirétroviraux quand elles arrivent et qu'elles, justement, préparent cette nouvelle grossesse.
Bon, ces mamans qui sont déjà sous traitement antirétroviraux, qui préparent une nouvelle grossesse, lorsqu'on les reçoit, la plupart du temps, la charge virale est déjà basse. Des fois même, la charge est indétectable. Mais quand elles accouchent, on met toujours l'enfant sous prophylaxie.
Vous prenez en charge ici les mamans. Mais quand ces femmes sont séropositives, est-ce qu'il y a une action qui est dirigée vers les papas ou les partenaires ou les maris? Comment ça se passe justement pour que la prévention ou le traitement s'étende aussi aux conjoints?
Lorsqu'elles viennent faire les dépistages que c'est positif, nous leur disons d'inviter leurs conjoints. On insiste beaucoup là-dessus parce qu'on essaie de leur expliquer que si elles seules, elles prennent le traitement, que le conjoint n'est pas dépisté, on ne sait pas si le conjoint est infecté ou pas, ça fait comme si elle ne faisait rien. Par exemple, si nous recevons 30 femmes, que nous leur disons de venir les conjoints, c'est rare que nous atteignions même 5 conjoints, c'est très rare. Les conjoints n'acceptent pas facilement de venir pour le dépistage. Et les femmes, à cause de leur enfant, à cause de la santé de leur bébé, elles acceptent de faire le dépistage. Donc 100% de femmes et leurs conjoints sont encore à revoir.
Christine Doumbia, sage-femme au centre de soins de Gonzagueville, professeur Thérèse Drioman, pour que cette prise en charge soit possible, on a entendu, on a compris à quel point c'est important, on va le redire, la base c'est toujours ce dépistage avec encore pas mal de réserves dans ce centre de soins parce qu'il y a du dialogue, parce que beaucoup de travail est fait, beaucoup de femmes acceptent, mais il y a encore des endroits, peut-être par exemple en dehors d'Abidjan, où c'est très difficile de convaincre ces femmes.
Oui, effectivement, il y a eu d'énormes progrès en milieu urbain parce que la sensibilisation par la communauté, par les ONG, par les professionnels de santé ont apporté ses fruits. Et le dépistage qui est proposé systématiquement à la femme enceinte également a permis d'améliorer le dépistage en milieu urbain. En milieu rural, c'était plus difficile. Parce que c'est là-bas où les obstacles liés aux facteurs socio-culturels ou religieux ont beaucoup d'impact dans la communauté. Parce que la femme qui arrive, vous savez déjà que on parle souvent d'absence d'autonomie économique de la femme, donc elle est vraiment dépendante de son mari. Et donc, avec les différents tabous, les professionnels même hésitent à proposer les tests parce que si c'est su dans le milieu de vie, elle risque la stigmatisation, elle risque même de fois l'exclusion, le renvoi du foyer. Néanmoins, je crois que les chiffres sont prometteurs. Parce que ce que j'ai dit, peut-être il y a quelques années, c'était vrai, mais avec l'approche districte que la Côte d'Ivoire a développée. C'est-à-dire, on a les districts de santé. Alors, si vous acceptez de prendre en charge les malades vivant dans un district, vous devez aller jusqu'en zone rurale. C'est-à-dire, vous devez vous appuyer sur les agents de santé communautaires, les former pour que le travail puisse être relayé. Et l'utilisation des agents de santé communautaire a amélioré le taux de dépistage même en milieu rural.
Docteur Bintou Dembélé, au Mali, quelles structures, quels acteurs de santé proposent ce dépistage?
Au Mali, ce dépistage est proposé par les sages-femmes, mais aussi par les agents communautaires qui sont sur le terrain. Parce que nous avions des activités de stratégie porte-à-porte où nous allons demander aux femmes enceintes d'accepter de se dépister. Parce que la prévention de la transmission mère-enfant ne peut pas se faire qu'au sein d'une structure de santé. Aujourd'hui, il est temps qu'on sorte la PTME des districts sanitaires. La communauté a un rôle fondamental à jouer. Nous sommes dans une société patriarcale. Les papas ont leur mot à dire. C'est pourquoi nous avons développé, avec les associations, avec notre autorité sanitaire, avec le Fonds mondial qui finance cette activité, la stratégie Papa Modèle, qui consiste à aller dans la communauté, aller parler aux hommes, ceux-là qui décident du devenir de l'enfant et de sa mère, qu'on leur parle de la PTME, qu'on leur dise que leur implication est importante pour avoir un enfant sain. Et ça, c'est fondamental. Il y a des papas qui marchent avec cette stratégie Papa Modèle. Le Papa Modèle, entre guillemets, c'est celui qui accepte de la convocation du médecin, de la sage-femme. C'est celui qui accepte de venir se dépister et d'annoncer son statut à sa femme. C'est celui qui accepte de participer à au moins un groupe de parole des femmes enceintes séropositives. Le papa modèle, et en dernier lieu, c'est le papa qui participe à au moins un suivi postnatal. Cet enfant né de mère séropositive, de parents séropositifs, son papa participe à au moins un suivi pour savoir comment son enfant est nourri, comment il doit être nourri, quel moment il doit faire son bilan biologique, quel est le moment où il va faire son test. Et nous avons reçu, petit à petit, à faire en sorte que les communautés s'intéressent à la prévention de la transmission mère-enfant. Parce que je peux vous dire, je peux vous témoigner que dans notre société, il suffit qu'un père de famille dise à sa femme le matin, vous allez faire aujourd'hui votre consultation prénatale. Ne revenez pas sans faire le test du VIH-SIDA. Vous allez voir que toutes les femmes qui seront interpellées par leur mari feront le dépistage et vont revenir avec le résultat. Et c'est ça qu'il faut maintenant.
Mais les mamans qu'on a rencontrées, ce que vous dites, c'est une chose, mais celles qu'on a rencontrées, on a vu un certain nombre de femmes dont les époux suivaient beaucoup moins bien justement ce genre de conseils. Ils n'étaient pas forcément disposés à, par exemple, accompagner les femmes lors des consultations prénatales. Jeanne Gapia, des freins à ce dépistage, dans votre pays, le Burundi, vous en avez aussi constaté certains de ces freins?
Oui, bien sûr. Je crois que c'est valable partout. Chez nous, c'est beaucoup plus les hommes. Parce que quand la femme a fait le dépistage, l'homme va le prendre pour son... Le test, s'il est positif, là, c'est pour lui. S'il est négatif, surtout, lui aussi, il est négatif. Donc, ils prennent les résultats de leur femme et ils veulent pas venir pour faire les dépistages. Et ça, c'est terrible parce que... Justement, moi, je me révolte quand on dit transmission mère-enfant. J'aimerais que ça soit parent-enfant. Parce que le fait qu'on... En fait, on a déjà parlé de la femme comme si c'est la femme qui transmet seule. On devrait maintenant comprendre qu'un enfant, c'est deux parents. Et surtout, ça arrive, et c'est souvent, ça arrive que la transmission, des fois, c'est ça peut être le mari. Et on n'est pas en train de chercher qui a amené ça, mais... Par rapport à l'enfant, c'est les deux parents qui devraient être responsabilisés. C'est pas encore le cas. C'est partout. Nous tous, on est en train de chercher comment intéresser les hommes, comment faire venir les hommes, parce que Aujourd'hui, nous savons, c'est pas seulement la vulnérabilité économique, mais il y a aussi une vulnérabilité des femmes qui ne peuvent pas négocier le sexe. On a dit, les professeurs qui ont parlé des modes de comment on essaye. Nous, on aimerait, c'est qu'on essaye de demander, c'est de demander d'abord même, parce qu'avoir un enfant, c'est un projet. Même avant de concevoir, de venir, et de venir à deux. C'est pas encore le cas, mais nous arrivons petit à petit à le faire. Je pense que c'est le mieux à faire, parce que d'abord, on sait qu'une femme, quand elle a une charge virale élevée, c'est mieux qu'elle attende qu'on la traite avant de concevoir. Donc, si on attend qu'elle vienne déjà enceinte, parfois, c'est compliqué déjà de réduire, surtout dans nos pays où on n'a pas tellement de molécules troisième ligne, où on n'a pas trop de choix pour les traiter quand c'est une personne qui est à un stade avancé. Mais le problème, c'est que une femme, même quand elle sait qu'elle a une charge virale très, très, très haut, quand son mari veut montrer que ça va, la femme ne peut pas dire non. Et c'est ça encore la situation dans nos pays, et c'est ça qui fait que on a toujours des enfants qui naissent avec le VIH. Le
professeur Madeleine Folquet, vous voulez réagir?
Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Chez nous, en Côte d'Ivoire, l'étude qu'on a faite, il y a au niveau national, les femmes séropositives, les femmes qui connaissent leur statut à l'occasion de leur grossesse, on n'a que 12% qui ont pu faire venir le mari, leur partenaire, pour qu'ils viennent faire le dépistage. Donc, on a un réel problème. Et je pense que vous avez vu le documentaire, ce que vous avez projeté, il n'y avait aucun homme. C'est pas dans la culture de chez nous des maris ou bien des partenaires d'accompagner leurs femmes en consultation prénatale.
C'est ce que l'on voit dans le centre de soins. Ce sont
essentiellement des femmes. Donc il faut qu'on aille dans la communauté. Et professeur Ndrioma a dit, en milieu rural, on utilisait les agents communautaires, mais même en milieu urbain, on utilise des agents, les conseillères communautaires, parce que ce sont elles qui sont à même de pouvoir conseiller pour le dépistage, de pouvoir faire des visites à domicile. Donc c'est un point clé, surtout, par exemple, au CHU de Cocody, les accouchements, il y a plein d'accouchements et les sages-femmes sont vraiment débordées, mais il n'y a que le conseiller communautaire qui va prendre sur lui de conseiller, de sensibiliser. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
Une question particulière sur la naissance. Vous m'interrompez, professeur Thérèse Drioman. Oui, vous voulez vous aussi réagir?
Oui, je voulais réagir. Bien sûr, j'ai déjà parlé, mais je voulais dire que nous avons commencé à sensibiliser les conjoints à partir de la femme enceinte depuis 2004. Et vous voyez que jusqu'en 2017, le problème persiste. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? Lorsque les époux acceptent de venir accompagner leurs femmes, il y a une meilleure acceptabilité de la maladie dans la famille. Il y a une meilleure observance de la thérapeutique. Et ça nous a permis de parler de l'approche familiale. Parce que quand tout le monde est inclus, il y a une meilleure observance et les tabous sont moins perçus par la personne malade. Et ça fait que, effectivement, on y gagne. Mais vous voyez le temps que nous avons mis depuis 2004. Aujourd'hui, on parle encore de papa modèle. Ça veut dire que le problème, c'est le problème clé dans la PTME. C'est comment faire participer les hommes.
Parce que c'est une histoire de famille,
ce n'est pas
une histoire de femme.
Voilà.
Alors vous restez avec nous mesdames, professeur Ndrioman, professeur Madeleine Folquet, Jeanne Gapilla, docteur Bintou Dembélé. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler de cette prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. On va d'ailleurs parler des mesures pour cette prévention, des mesures concrètes lors de l'accouchement, également lors de l'allaitement. On va se retrouver dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité.
Priorité santé, Caroline Paré.
seconde partie de Priorité Santé consacrée à la prise en charge mère-enfant pour la prévention de la transmission du VIH. Une émission enregistrée à Abidjan où se tient la 19e édition d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. On retrouve nos invités, hein, le professeur Thérèse Driomant, ancienne ministre de la Santé ici en Côte d'Ivoire, ambassadeur au Congo-Brazzaville, coordinatrice sud du programme de recherche PAXI qui travaille sur le sida et les hépatites, professeur Madeleine Folquet, chef de service de pédiatrie au CHU de Cocody à Abidjan, Jeanne Gapilla, fondatrice et présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, principale association de lutte contre le sida au Burundi, et puis le docteur Bintou Dembélé, médecin, directrice d'Arcade Sida au Mali. On disait tout à l'heure en première partie d'émission que le Rwanda allait certainement réussir l'an prochain d'atteindre justement cet objectif de zéro naissance de bébé séropositif en 2018. Pourquoi ce résultat? Pourquoi d'autres pays du continent, eux, sont encore loin du compte? Un taux de transmission mère-enfant qui reste encore supérieur à 10% dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Professeur Thérèse Driomant, pourquoi cette question un petit peu critique, pourquoi l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe réussit là où l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont à la peine?
J'acquiesce parce que hier même, j'ai fait une présentation sur l'évolution épidémiologique du VIH en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et effectivement, on s'est rendu compte que 45% des enfants vivant avec le VIH se trouvent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et alors qu'il y a quelques temps, l'épidémie avait flambé en Afrique australe, mais je crois que l'engagement politique ferme, la prise des mesures rationnelles pour dépister les malades, pour suivre ceux qui sont atteints, ont permis donc d'améliorer le taux de séroprévalence chez les enfants.
Docteur Bintou Dembélé, peut-être un éclairage sur le Mali en particulier?
Nous avons le sentiment en tant que l'Afrique de l'Ouest qu'aujourd'hui, nos pays sont laissés à la traîne. Parce que nous avons la chance ou la malchance, je ne sais plus ce que c'est, d'avoir une séroprévalence plus faible. Nous avons le sentiment que les pays, nos partenaires techniques et financiers, privilégient les pays où la séroprévalence est plus élevée, tels que l'Afrique de l'Est, tels que l'Afrique du Sud. Dans ces pays, l'accès au traitement n'est pas problématique. C'est beaucoup moins problématique qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'est ça notre péché. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi dans ces pays-là, la lutte avance beaucoup vite. Parce que l'accès au traitement est beaucoup plus facile. Les financements sont beaucoup plus présents. L'engagement politique accompagne. Mais dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons du mal à ramer. Nous avons du mal à atteindre cet objectif-là. Parce que justement, personne ne s'inquiète de notre faible prévalence.
Les pays des Grands Lacs sont représentés à cette table, hein, par vous, Jeanne Gapilla, le Burundi. Est-ce que c'est vrai aussi pour le Burundi que la lutte a justement permis d'atteindre des ambitions qui avaient été fixées en termes de réduction de séropositivité chez les nouveau-nés, peut-être dans une moindre mesure, en tout cas, que du côté du voisin rwandais?
Alors, au Burundi, je dois dire que quand on regarde les chiffres, je pourrais dire qu'on est à plus de 60% de taux de couverture. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 40%, lorsqu'on parle de pourcentage, hein, j'aime pas les pourcentages parce qu'on a l'impression que c'est abstrait. Mais ces pourcentages sont des femmes et des enfants qui ont des noms. Et j'en parle en tant que personne infectée, en tant qu'une mère qui n'a pas eu la chance d'avoir les ARV. De mon temps, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, moi, j'ai perdu un enfant parce qu'il n'y avait pas les traitements. Et je n'ai pas à blâmer qui que ce soit. Mais il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, il y ait d'autres mères qui perdent un enfant comme je l'ai perdu 20 ans après, 30 ans après, qu'on ait toujours le même sentiment. J'aime dire, les femmes, nous sommes là pour donner la vie. Mais j'ai donné la vie à la mort. Parce qu'il n'y avait pas les traitements. Aujourd'hui encore, on va faire en sorte que les femmes donnent la vie et la mort. C'est inacceptable. Et ça, comme on le dit, il faut un engagement politique. Bien que je dis les 40% et les communautaires, nous sommes là. Je pense qu'on est incontournable. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on soit là? Nous avons des plateformes dans toutes nos régions. Nous savons ce qu'il faut faire. Et nous avons l'expertise. Seulement, comme ma sœur Bintou vient de le dire, ce n'est plus à la mode. Et notre région est laissée pour compte. C'est inacceptable.
On va retourner au centre de soins de Gonzagueville, de Port-Boué, où nous sommes arrêtés tout à l'heure en salle de consultation prénatale. À côté se trouve le service dédié à la vaccination. Un peu plus loin, service de dépistage de la tuberculose. Et puis, le service social, où à force d'explications, à force d'arguments, les femmes acceptent le dépistage. C'est ce qu'explique Monique Dittilson, conseillère communautaire.
L'avantage de la prise des médicaments, et de la bonne observance, on appelle la bonne observance, c'est-à-dire quand elle prend bien ses médicaments, et non seulement le bébé sera protégé du VIH, tout cela, on leur dit ça ici.
Et vous avez tout un travail aussi par rapport au papa, par rapport au mari, comment ça se passe?
Oui, on invite le père à venir accompagner sa femme à l'hôpital et on profite pour lui faire la proposition du test de dépistage aussi. Mais c'est un peu difficile parce que les mères n'arrivent pas à faire l'annonce.
Quand les femmes viennent ici, on va le dire simplement, ça veut dire qu'elles sont séropositives. Est-ce qu'il n'y a pas une peur justement d'être repérées comme malades? Est-ce que ça ne les empêche pas de venir? Parce que finalement, ils disent « Ah, on va me regarder, on va voir, regardez, elle est séropositive. »
En fait, non, ici, c'est pour ça qu'on a mis le service social. On a mis le service social, c'est pour en fait cacher un peu. Parce qu'on ne peut pas mettre comme ça un CDV ou bien on s'occupe simplement des personnes vivant avec le VIH ici. Non, quand on fait, c'est une stigmatisation. Donc les femmes, vraiment, elles ne vont pas venir à leur rendez-vous. On dit service social, on fait beaucoup de choses ici. On fait du social, il y a des mamans qui sont en difficulté avec leur conjoint à la maison, l'assistance sociale, ils gèrent tous ces problèmes-là. Donc on a caché, on met le service social.
Et dans la salle d'attente, nous rencontrons Awa, son bébé au dos, une fillette d'un an. Awa est séropositive. Son bébé, lui, est en parfaite santé.
Lors du résultat du bébé, j'ai été contente. Le docteur aussi a été content parce que j'ai respecté l'ordonnance.
Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage? Par exemple, votre papa et votre maman ne sont pas au courant?
Ma mère, oui. Mon papa, non. Non. Je préfère ma mère parce qu'elle elle est ma confidente. Elle ne s'est pas fâchée. Ce sont des trucs qui arrivent.
Et c'est une petite fille que vous avez avec vous. Quand elle sera une jeune fille, qu'est-ce que vous lui direz justement pour sa propre santé?
Des conseils tels que de faire attention, de se protéger à tout rapport sexuel et le préservatif. Voilà. Fais beaucoup attention.
Plus loin, c'est Maïssa qui attend la consultation avec la sage-femme. Dans un mois, son bébé sera là et le dépistage l'a rassurée.
Ce qui m'a motivée à le faire, parce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des enfants séronégatifs. La mère peut être porteuse de virus et puis l'enfant, en suivant les traitements et les conseils des sages, on arrive à trouver un enfant bien portant. Donc c'est ce qui m'a motivée à le faire.
Et aujourd'hui, ce message est vraiment passé chez les mamans en Côte d'Ivoire. Elles le savent qu'avec les traitements antirétroviraux, même si on est séropositive, il faut arrêter les tabous, arrêter d'avoir peur. On peut se traiter, on peut voir son enfant grandir. C'est ça l'important.
Oui, je peux dire que le message est passé, mais aussi que de continuer à sensibiliser parce que ce n'est pas tout le monde qui vraiment accepte la maladie. Quand on dit à une personne déjà que tu portes le virus VIH, la personne est vraiment abattue. Et ça encore, ça fait que la maladie évolue plus. Parce qu'avec le stress et tout ça, la maladie évolue. Et d'autres ont peur encore que les maris sachent qu'elles portent le virus. Parce que quand ils viennent et on dit non, vous êtes porteuse du virus, elles ont peur. Elles refusent même catégoriquement de venir suivre le reste du traitement. Donc, quand on a une copine ou bien un camarade qui est porteuse de ce virus, on doit trouver les mots exacts pour pouvoir aider la personne et encourager la personne à aller vers les centres de santé pour pouvoir suivre son traitement aussi. Ou soit assister la personne pour le suivi de son traitement.
Est-ce que c'est moins tabou chez les mamans que chez les hommes?
Chez les hommes, vraiment c'est tabou. Les hommes, ils se disent quoi? C'est toi la maman qui est venue avec le virus dans la famille. On ne sait pas vérifier. Donc il y a tous ces genres de problèmes-là dans le couple. Mais pour la femme, je peux dire que c'est un peu bon parce qu'elle va s'informer auprès de d'autres femmes avec les ONG, les centres communautaires, les meetings des femmes. Elles peuvent s'en sortir. Or, les hommes, ils aiment se cacher, ils n'aiment pas en parler au fait.
Ces patientes et conseillères communautaires au centre de soins de Gonzagueville à Port-Boué, on a entendu tout à l'heure AWA séropositive, bébé séronégatif. Elle a pris ces traitements. Docteur Bintou Dembélé, quand on veut aussi prévenir le VIH, cette transmission de la mère à l'enfant, il y a aussi des précautions particulières lors de la venue au monde du bébé. C'est ce qu'on appelle l'accouchement sécurisé. De quoi s'agit-il ?
Nous savons aujourd'hui que 65% de la transmission mère-enfant se fait au moment de l'accouchement. Parce qu'au moment de l'accouchement, les échanges sanguins entre la mère et l'enfant sont intensifiés. C'est pourquoi en ce moment-là, les traitements doivent être pris pour que la maman ait une charge virale indétectable. Quand la mère a une charge virale indétectable, c'est ce que nous appelons l'accouchement sécurisé, parce que la transmission est vraiment très réduite, à moins de 5%.
Il y a aussi certains gestes que l'on évite lors de l'accouchement.
Tout à fait. Au moment de l'accouchement, il faut éviter le forceps, il faut éviter les gestes qui sont traumatisants, et pour l'enfant et pour la mère. C'est pourquoi la sage-femme qui fait l'accouchement doit avoir une formation et doit être informée du statut de la mère. C'est pourquoi toutes les femmes séropositives ont dans leur carnet de santé l'information de leur statut sérologique et les traitements qui sont en train d'être pris. Et ce n'est pas suffisant lorsque l'enfant naît de mère séropositive doit prendre immédiatement les traitements.
Professeur Madeleine Folquet, il y a aussi des précautions particulières par rapport à l'allaitement. Et pourtant, on l'a entendu, cet allaitement à 6 mois, allaitement exclusif, c'est quelque chose qui est vraiment conseillé par les médecins.
L'allaitement, chez nous en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, l'allaitement c'est une stratégie de survie de l'enfant parce que la population est pauvre et non seulement ça, c'est culturellement admis. Donc avec le traitement antirétroviral, parce qu'on est passé de plusieurs étapes, maintenant c'est le traitement, la femme qui est enceinte, qui est dépistée positive est traitée. Donc avec ce traitement, on a une réduction, comme on l'a dit, de la charge virale, donc elle peut allaiter son enfant et l'allaitement exclusif se fera jusqu'à 6 mois. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons poursuivi cet allaitement jusqu'à 1 an pour les femmes infectées par le VIH, tout en commençant la diversification.
Alors, en juillet 2016, il y a une ligne directrice de l'OMS pour mettre sous traitement antirétroviral toutes les mères qui vivent avec le VIH pour protéger bien sûr leur santé et puis aussi assurer le bien-être des nourrissons, des médicaments à vie, professeur Thérèse Ndrioman, où en est aujourd'hui cette recommandation et son application? Est-ce qu'on a une idée à peu près de la proportion de femmes qui sont sous ce qu'on appelle les ARV?
Il y a une proportion de plus de 60%, parce que justement, une des directives, c'est que la femme soit traitée pour elle-même. Bien sûr, elle va protéger son enfant, mais elle est considérée comme une malade, donc elle reçoit des antirétroviraux pour se traiter elle-même.
Dans toute cette prise en charge des femmes, des mères, des futures mamans, il y a la communication qui est très importante. Vous insistiez tout à l'heure, Jeanne Gapia, sur le fait qu'aujourd'hui, eh bien, même quand on est séropositif, on a l'espoir non seulement soi-même de vivre de longues années, mais en plus de voir son enfant vivre de longues années. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnels de soins en milieu hospitalier, en centre de santé, donnent ce message aux femmes, ce message finalement positif pour l'avenir?
Je dois dire que, en ce qui concerne le Burundi, c'est le cas, mais c'est beaucoup plus, et les malades, les personnes vivant avec le VIH, préfèrent le milieu associatif. Parce que c'est là où on a tout le paquet, en fait. On va tout suivre, du début à la fin. Et puis, il y a des cadres aussi, des groupes de parole entre femmes, qui est très important qu'on ne va pas retrouver au milieu hospitalier. Ce qui est bien, c'est que le milieu hospitalier aussi, nous collaborons parce qu'ils savent leurs limites et ils font appel au milieu communautaire. Donc, c'est très important. Et puis, moi, ce que je dis, mais laissez les femmes être tout simplement des femmes. Des femmes sont faites pour procréer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous dise la femme infectée, c'est tout simplement une femme. Et encore une fois, je dis, nous pouvons y arriver. Seulement qu'on nous donne les moyens et que nous soyons surtout acceptés et financés internationalement, mais nous avons besoin aussi des financements locaux. nos gouvernements doivent mettre la main dans la poche.
Bien sûr, en fonction des ressources de chacun, voir justement la proportion de prise en charge de ces gouvernements dans la lutte contre le sida. Ce serait quelque chose aussi d'assez important, que ces États fassent preuve de transparence en montrant les chiffres. Certains pays financent jusqu'à 60% des traitements antirétroviraux, d'autres c'est quasiment rien. Tout vient de l'aide internationale, de la prise en charge internationale. Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe, par exemple, pour le Mali, docteur Bintou Dembélé? Que font les gouvernements alors que, elles, les associations sur le terrain se battent au quotidien?
Au Mali, il y a une politique claire en matière de prise en charge, de prévention de la transmission mère-enfant. Nous avons un plan d'élimination de la transmission mère-enfant. Ce plan d'élimination de la transmission mère-enfant a été lancé il y a 2 ans par la première dame du Mali. En ce qui concerne les acteurs communautaires que nous sommes constamment sur le terrain. Et comme l'a dit, nous couvrons presque la sous-région. Arcasida aujourd'hui a une expertise par rapport à l'approche communautaire. Parce que nous travaillons avec les personnes elles-mêmes concernées par la maladie. Ils sont au début et à la fin. Au début parce qu'ils contribuent à amener les personnes vers le dépistage, à faire une grande mobilisation sociale, à faire des témoignages à visage découvert, à demander aux femmes d'accepter de se dépister. Mais elles sont aussi à la fin parce que ce sont elles-là elles-mêmes qui animent les groupes de parole des femmes enceintes séropositives, qui font l'accompagnement, le soutien jusqu'au domicile des femmes vivant avec le VIH-SIDA.
On voit justement tous ces acteurs absolument clés dans cette prévention de la transmission. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, professeur Madeleine Folquet, c'est très important pourtant. Pourquoi les femmes sont-elles plus vulnérables que les hommes au SIDA? Pourquoi y a-t-il 3 fois plus de femmes infectées dans les nouvelles infections que les hommes? C'est aussi une question tout simplement de physiologie de corps.
Oui, c'est vrai que c'est une question de physiologie de corps. Hein. L'anatomie du sexe de la femme est toute tapissée de muqueuse. C'est plus facile pour elle de s'infecter. Mais il y a aussi le fait qu'elle n'arrive pas à négocier le port du préservatif. Hein. Ça, c'est très important. Et aussi le fait qu'il y a la pauvreté de la femme. Donc la femme qui dépend de l'homme, donc elle est obligée dans ces conditions-là d'aller et de répondre au bon vouloir de l'homme.
Donc il y a une question dont on parle beaucoup, notamment dans les sociétés occidentales, c'est le consentement. C'est une question clé pour la santé de la femme, ce consentement. Moins on respecte son consentement, plus on met sa santé en danger. Jeanne Gapier, vous voulez réagir à ce sujet des violences sexuelles, même si quand ça se passe dans le lit conjugal, on ne parle pas de viol, mais malgré tout, la femme est forcée.
Absolument. Et il y a aussi la culture. Il y a nos cultures qui jouent un grand rôle. Comme je disais, une femme peut, peut même être sûre que son mari peut-être a contacté le virus. C'est comme une chose de son mari. Et ça, c'est grave. Et puis, il y a des pesanteurs de la belle famille. Encore une fois, dans ce qui concerne la transmission mère-enfant, même la femme qui est très, très faible, le mari va lui dire, mais une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme dans nos cultures. Ça, c'est aussi quelque chose. Elle va avoir un enfant, sachant qu'elle a une charge virale qui est très élevée et qu'elle est peut-être, qu'elle pourra même pas élever son enfant, mais il faut avoir un enfant pour faire bonne figure, pour faire une bonne femme africaine. Et tout ça, c'est vraiment contre le programme de prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Donc, les cultures africaines, moi je dis toujours, on dit la culture, il faut rester à la culture. Je dis, mais je crois que c'est vraiment de la malhonnêteté parce que lorsque ça nous arrange, nous restons dans nos cultures. Je dis, mais les téléphones n'étaient pas dans nos cultures, mais ça nous arrange de les prendre. Mais quand on dit, il y a le virus est là, nous devons nous adapter, ça passe pas.
Des choses à changer au sein de la société, vous vouliez réagir à ce sujet, professeur Madeleine Folquet?
Non, je voulais dire que c'est vraiment un cri de cœur. Il faut aider les adolescents. Parce qu'on a vu que c'est par les adolescentes qu'il y a une augmentation du taux du VIH chez les adultes. Donc franchement, il faut les aider. Je pense que si elles vont à l'école, si elles peuvent avoir de l'argent, si vraiment on s'engage politiquement à aider les adolescents, ça allait pouvoir permettre de réduire le taux de transmission.
Mais vous avez dit au féminin, donc on va aider les adolescents,
non,
eux aussi on peut les aider,
et les garçons également, mais c'est surtout, je pense qu'il faut que l'adolescent soit une préoccupation solution pour nous. Il faut les aider. Et ça, franchement, je crois que là, l'engagement politique devrait pouvoir aider. Parce que le VIH a fait que maintenant, le pédiatre est confronté à prendre en charge les adolescents. Donc, ce qu'on ne voyait pas avant, parce que nous, c'était surtout les enfants de moins de 5 ans qui avaient un taux de mortalité, de morbidité élevé qu'on voyait dans nos hôpitaux. Maintenant, on a les adolescents avec tous les problèmes des adolescents. Donc, je crois que ça, c'est très important. Il faut vraiment que...
Et il faut que les parents ne se fassent pas d'illusions. Si leurs enfants ont envie d'aimer, ils aimeront.
Oui, il faut parler de sexualité au primaire. Il faut parler de sexualité dans les écoles. Il faut vraiment...
L'éducation sexuelle, très important. Professeur Thérèse Ndriyoman, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir d'abord sur les facteurs culturels pour dire qu'on a un élément sur lequel nous pouvons agir, c'est le lévira. Ce qu'on appelle le lévira, c'est-à-dire lorsque un monsieur meurt, sa femme est proposée à ses frères ou à ses cousins.
Alors on hérite, ne connaît pas on hérite le statut. De la veuve.
On hérite de la veuve. En héritant de la veuve, des fois on hérite de la maladie. Parce qu'on ne cherche pas à savoir pourquoi le monsieur est mort. Et ça, c'est un facteur de multiplication dans la société. Et vous avez parlé des obstacles. C'est très vrai en milieu rural.
Les traditions, Jeanne Gapia, qui sont justement, voilà, qui mettent en danger. On veut protéger la communauté, veut protéger les traditions communautaires. Finalement, on met en danger, du coup, la communauté.
Exactement, c'est ce que je dis. Mais il faut vraiment que, encore une fois, nous sommes d'accord. Tout ça, il nous faut la volonté politique. Ça, s'il faut. Et puis, c'est pas que politique, parce que quand je dis politique, mais il y a des gens, c'est les leaders de tous bords, les leaders religieux, les leaders coutumiers et les politiques. Tous ensemble, nous devons vraiment comprendre qu'il y a un fléau et que nous devons mettre nos énergies ensemble.
Parce qu'on parle là aussi de la transmission mère-enfant, de l'avenir de ces pays, ces enfants. Docteur Bintou Dembélé, justement, avec des acteurs qui doivent agir à tous les niveaux de ces sociétés, en milieu rural, en milieu urbain, les religieux, les laïcs, tout le monde doit s'y mettre, justement.
Justement, il faut qu'on s'y mette tous. Parce qu'aujourd'hui, la lutte contre le sida est un phénomène qui est universel, qui est national, dans nos familles. C'est là-bas que ça se passe. Donc les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders politiques, les maires, tout le monde doit réagir. C'est pourquoi nous avons dit que cette approche-là, elle doit se faire tous ensemble, au sein de la communauté, dans les structures de santé. Mais il y a aussi, dans tout cela, un phénomène qui est extrêmement important. Il faudrait qu'on n'oublie pas les enfants qui sont nés avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, il y a des adolescents qui sont infectés parce qu'ils sont nés avec le VIH-Sida. Et ces enfants-là continuent à prendre des traitements. J'en connais qui sont grands, qui sont allés à l'université. Et aujourd'hui, ces enfants-là réclament une place.
Et ils ont un avenir.
Ils ont un avenir. Ils ont un avenir. Mais il ne faut pas qu'on les oublie parce que ces enfants-là, ils existent.
Professeur Madeleine Folquet, la Côte d'Ivoire, plus aucun bébé séropositif. Dans quel délai est-ce qu'on peut se projeter dans cet avenir, comme le fait le Rwanda?
Elle a parlé de plan d'élimination de la transmission ITME, élimination de la transmission mère-enfant. Nous avons un plan d'élimination, nous avons nos goulots d'étranglement qui sont connus. Et maintenant, le programme national de lutte contre le sida essaie de mettre des stratégies pour aller à l'encontre donc de ces goulots d'étranglement. Donc ce qui fait que maintenant, on a une couverture de PTME de presque 90-95%. Et puis, on a l'engagement de la première dame, ambassadrice de l'ONU-SIDA. Donc je pense que avec tout cet engagement, nous pouvons y arriver. Mais il faut également l'engagement du personnel, parce que jusqu'à présent, on a des gens qui, pour eux, prendre en charge quelqu'un qui a le VIH-SIDA, c'est comme si c'était un surcroît d'activité qu'on leur demande. Donc, c'est une maladie chronique. Maintenant, l'infection à VIH, c'est une maladie chronique.
Et encore, il y a beaucoup de maladies chroniques qui n'ont pas de traitement, comme
voilà,
le VIH.
Et alors que le VIH a un traitement. Donc, et le challenge, c'est de la rétention des personnes infectées, vraiment la rétention. Le challenge, c'est vraiment le volet communautaire, moi je pense, qu'il faut vraiment développer dans nos pays. Parce que le personnel, il n'y en a pas beaucoup. On a besoin de soutien. Mais ce volet communautaire doit être reconnu parce que les gens travaillent de façon volontaire. Non, je crois qu'à un moment, hein, il y en a marre. Donc, il faut vraiment que ce volet communautaire-là soit, ils viennent travailler, ils sont rémunérés à la fin du mois, comme tout autre. Et je crois que ça pourra vraiment faire infléchir la transmission mère-enfant. Donc, je pense que la santé, c'est un droit, mais comme on l'a dit, l'élimination du VIH-SIDA, c'est vraiment notre devoir. Parce que plus jamais, voir naître un enfant séropositif, alors qu'on a toutes ces mesures qui ont fait leur preuve, non.
Merci beaucoup. Merci, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Professeur Madeleine Folquet, chef de service de pédiatrie au CHU de Cocody Abidjan, professeur titulaire de pédiatrie à l'université Félix Oufouette-Boigny, professeur Driomand, ancienne ministre de la Santé ici en Côte d'Ivoire, ambassadeur au Congo-Brazzaville, Jeanne Gapilla, présidente fondatrice de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida au Burundi, et puis vous, madame Bintou Dembélé, médecin directrice d'Arcade Sida au Mali. Une émission enregistrée à l'occasion de la 19e édition d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, émission produite avec le concours du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Merci à l'équipe de Priorité Santé, Ophélie Lassène, Victor Hull, Assetoussa Maké à Paris. Demain, dans notre émission, nous évoquerons Louis Pasteur, une vie au service de la recherche appliquée, microbes, vaccins, réseau international des 33 instituts dans le monde. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.